Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, si je devais donner un morceau de musique sur celui-là, je dirais « Ne me quitte pas ». J'ai tout oublié. Ah. Donc, ben oui, moi je ferai ça.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit:
t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on analyse, on décortique, on argumente, et pour ça, on est bien obligé de spoiler. Donc si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, pour le tout dernier épisode de la saison, on se retrouve en tout petit comité, un épisode intime presque. Et les autres, bah, croire qu'ils sont déjà partis en vacances. Ouais. En tout cas, pour m'accompagner sur ce dernier épisode, j'ai le plaisir de retrouver Yannick, vous l'avez reconnu.
Salut.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, dans l'ombre, et pourtant son rôle est si important. Il a tenu la baraque toute la saison, on ne l'entend pas souvent, mais pas un seul épisode qui ne s'enregistre sans lui. Bonjour Alain.
Salut.
Et puis on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Si vous êtes à Paris cet été, on a une jolie surprise pour vous. Le 22 juillet, on vous propose l'avant-première exclusive de la bataille du lac Shenjing, de Chen Kaiye. Je suis sûr que je vais me planter en prononçant. De Chen Kaiye, Dante Lam et Choi Ark. C'est votre seule chance de le voir sur grand écran puisqu'il sort en Blu-ray le 27 juillet et ne sera projeté nulle part ailleurs. C'est au Club de l'Étoile que ça se passe, donc notez bien cette date, le 22 juillet. Et puis, ce n'est pas tout. Dernier appel pour les retardataires, la séance capture spéciale 10 ans, c'est ce samedi 2 juillet. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, il est encore temps de prendre vos billets. Mais soyez prévenus, le programme est aussi chargé qu'enthousiasmant. Ça commence à 16h30 avec l'enregistrement de Capture Mag, le podcast en public, 3h consacrées à Sam Raimi. On se rafraîchira ensuite autour d'un petit apéro, l'occasion de revenir sur les projets de Capture, et puis on terminera en beauté avec la projection Devil Dead 2. La séance Capture spéciale 10 ans, c'est ce samedi 2 juillet à partir de 16h30 au Club de l'Étoile. Pour cette séance et celle du 22 juillet, donc la bataille du lac Changing en avant-première exclusive, rendez-vous sur le site du Club de l'Étoile, clubdelétoile.fr. Enfin, on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent et qui nous écoutent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Un flic amoureux, une femme fatale, une mort mystérieuse, cette semaine on vous parle de Decision to Live. Imaginez un détective chevronné qui enquête sur la mort suspecte d'un homme. Imaginez que ce détective commence à soupçonner l'épouse du disparu. Plus l'enquête avance et plus elle devient suspecte. Mais plus l'enquête avance et plus notre détective est troublé, attiré jusqu'à en tomber amoureux. Résumé comme ça, on pourrait penser à Vertigo, à Basic Instinct. Sauf que cette fois, c'est un réalisateur coréen, Park Chan-wook, qui se colle à cette revisite du mythe de la femme fatale. Park Chan-wook, on lui doit notamment un triptyque sur la vengeance, sorti entre 2002 et 2005. Oldboy, notamment, avait connu un important succès public et critique. Tout comme son dernier film, Mademoiselle, sorti en 2016. Decision to Live, c'est son 11e film. Il est sorti ce mercredi 29 juin et pour l'instant, l'accueil est plutôt très positif. Il a d'ailleurs reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes de cette année. Alors, je me tourne vers vous. Yannick, t'as encore quelques secondes pour préparer ta météo. Stéphane, toi, c'est quoi ?
Marée basse.
J'allais dire du coup marée haute pour être un peu plus original.
Et bah,
mais en fait, remarque.
Mais très bien.
Mais je pense qu'on pense la même chose, c'est ça le problème.
Marée basse à côté, marée haute de l'autre. Vous allez nous expliquer tout ça tout de suite.
marée basse, ça fait ressortir. Genre, tu sais, en fait, le mec, il va utiliser tous les trucs. À marée basse, ça fait ressortir les cadavres dans le placard. Voilà. Non, mais c'est parce que, en fait, en gros, c'est comment dire. C'est effectivement une histoire d'enquête qui démarre, mais finalement, l'enquête en soi n'a pas plus d'importance que ça, en fait. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment, en fait, un relationnel entre deux personnages. Et il faut le dire, hein, une vraie histoire d'amour. C'est-à-dire, mais comme d'ailleurs Mademoiselle, finalement, était une histoire d'amour aussi. Hein. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, je ne suis pas un grand fan de Park Chan-wook. Je dois avouer, hein, des sympathies pour Mister Vengeance, ça, je ne suis pas super fan. J'aime beaucoup Oldboy. Après, je lui trouve des qualités hein, à son cinéma. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez, assez virtuose. Quoi. Mais il y a toujours, en fait, une espèce de comment dire... pour moi, en fait, un truc auquel j'ai du mal à adhérer, je pense que c'est plutôt une vision du monde, en fait, avec laquelle j'adhère pas forcément. Et là, en fait, il m'a un petit peu plus cueilli, justement, à travers cette vision du monde. Il y a un petit truc, en fait, on va mettre le terme dessus, on va mettre le mot dessus, on va trouver au fil de la conversation, je pense, mais c'est vraiment un terme d'ironie, mais que je trouve toujours un tout petit peu déplacé de manière générale chez lui, et qui, là, en fait, je trouve, fonctionne à peu près. C'est-à-dire, et étrangement, plutôt dans la deuxième partie que dans la première. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc, moi, je suis pas un énorme fan de Park Chan-wook, mais... Et par exemple, l'un des problèmes que j'ai avec Mademoiselle, je vais pas spoiler Mademoiselle, hein, mais pour ceux qui l'ont pas vu, mais en fait, moi, dès que le film commence à raconter, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure et quart de film, dès que le film commence à raconter un truc où il disait « Bon, bah, on va repartir d'un autre point de vue, on va vous raconter exactement ce que vous avez vu, on va vous le raconter d'un autre point de vue », moi j'étais genre ah ouais mais non en fait c'était déjà assez en fait ce qu'on m'a raconté là, j'ai pas besoin d'un autre point de vue. Là en fait il y a une structure un peu similaire, pas sur une question de point de vue mais sur une question de continuité, c'est-à-dire que l'histoire elle pouvait s'arrêter là au moment donné, dire voilà on en a terminé là, c'est l'histoire entre cet homme et cette femme, c'est l'histoire entre cet enquêteur en fait et cette veuve en fait qui se trouve quand même malgré tout inquiétée dans la mort de son mari. Lui il tombe amoureux d'elle, à la fin il dévoile une sorte de poteau rose quoi, et en fait en gros ça pouvait très bien s'arrêter là, et moi où je trouve le film en fait c'était bien fait hein, mais là où je trouve le film intéressant c'est quand ça redémarre dans la deuxième partie, et là c'est exactement pour moi le coup pour l'inverse de Mademoiselle sur ce point là, c'est à dire qu'il fait vraiment redémarrer le film et offre un point de vue différent parce que bon c'est en gros c'est un film sur un personnage de femme fatale en fait hein, mais c'est un personnage de femme fatale qui est traité je trouve fondamentalement différemment, pas tant dans la première partie parce que ça on peut voir les trucs, mais justement dans la deuxième partie et surtout jusqu'où il mène clairement le truc, c'est-à-dire c'est là où en fait on n'est plus dans un film de ce que je dirais un film de petit malin, enfin façon de parler, parce qu'encore une fois je lui accorde plus de crédit à ça que ça à Park Chan-wook quoi, mais il prend un personnage qui est clairement ironique et en fait justement il le ramène, il lui remet un peu les pieds sur terre en fait, c'est ça que je trouve assez intéressant, mais je sais pas en fait
Mais alors c'est marrant parce que quand on parle en fait je suis incapable de dire si ça t'a plu ou pas, c'est-à-dire que tu si, commences de façon en fait, assez négative mais finalement
non
tu
en fait
que
en fait
qualités.
en fait c'est un film alors c'est un film qui a les qualités de Park Chan-wook, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pose assez régulièrement la question de il va foutre la caméra. Assez souvent, c'est assez iconoclaste, en fait, sa façon de faire. Et moi, à la limite, ça, pourquoi pas, j'aime bien. C'est juste que... ce que je reprocherais, on va dire, à ses précédents films, c'est que parfois, c'était un peu n'importe où, quoi. Et puis, un peu n'importe comment, quoi. Mais pas Oldboy, hein, je mets ça vraiment de côté, quoi. Parce que je pense Oldboy, c'était vraiment drivé par une force, en fait, très, très noire et très, très, enragée, quoi. Et c'est ça aussi qui m'a plu. C'est-à-dire que la problématique d'un film comme Oldboy, c'est que c'était pris comme un film en fait de festival, cannois, etc., etc. Mais à la fin, en fait, c'est un pur film d'exploitation. Mmh. C'est vraiment, vraiment, en fait, il traite la vengeance, Monte Cristo, toutes les références qu'il a, de façon, comme un film d'exploitation des années. Pour moi, j'ai l'impression de voir un film des années 70, en gros, où c'était un mec qui prenait un sujet, il sait que les gens vont reconnaître en fait le film caché, et en fait, il y allait à fond la caisse, en mettant les trucs les plus graves le possible, les plus machins, et c'était tellement porté par une énergie du désespoir, que fondamentalement ça fonctionnait et tout ce qui pouvait être des petits à côté, encore une fois des petits affaires de petits malins, en fait c'était emporté totalement avec le truc. Et moi le problème que j'ai c'est que les autres films en général il y a ces affaires de petits malins et c'est des trucs où je vois moi Mademoiselle, le truc où justement où il vrille en fait et il dit on va vous présenter ça sous un autre angle, j'ai eu du mal en fait à accepter que ce soit totalement organique dans le récit et dans ce qu'il voulait raconter. Maintenant, en mettant ça à part, ce que tu signales, en fait, c'est que c'est un peu comme ça que moi j'aborde Park Chan-wook, malheureusement. C'est-à-dire que j'y vais, j'essaye d'être neutre, mais j'aborde effectivement en disant.
Je suis d'accord, mais là, voilà. ce que tu as dit derrière, c'était positif au final.
Voilà, justement, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, après, c'est pas, je déteste pas le film, je suis pas non plus un grand fan du film, mais non, je vais pas le surdéfendre. Ce que je veux dire,
tu le défends pas, mais tu viens de dire quand même pendant 5 minutes en quoi il était mieux que les autres.
Parce que, pas forcément mieux, pas mieux Callboy par exemple, mais le truc, c'est qu'il aborde, en tout cas, suffisamment différemment le sujet initial et surtout dans sa deuxième partie pour moi me dire ah en fait il a quelque chose à dire sur le film noir, il a quelque chose, même si c'est pas un film noir on va dire visuellement automatiquement, tu vois il y a des trucs mais c'est pas ça, il a quelque chose à dire sur le personnage de Femme Fatale, ça donne en fait un relief et une humanité à ce personnage là que t'as pas l'habitude de voir. En tout cas, moi, j'en ai bouffé quand même des films noirs, des trucs comme ça. Et en fait, cette façon d'aborder ce personnage-là, j'ai trouvé suffisamment différente pour, être surpris. Et mine de rien, en fait, quand t'es en train de regarder un film qui est pas désagréable, qui est plutôt bien fait, mais qui t'emporte pas plus que ça, et qu'il arrive à te surprendre en deuxième partie, c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc du coup, c'est ça qui m'a... Moi, en fait, c'est ce qui m'intéresse. Je sais pas si ça va marcher la deuxième fois. Je sais pas si ça va... Voilà. Je peux pas dire que j'ai une envie débordante de le revoir. Mais, en tout cas, c'est un film qui a ce mérite-là. Et mine de rien, en fait, il y en a pas des films comme ça ces derniers temps. Donc du coup, moi, je suis plutôt surpris sur ce point-là, quoi. Après, voilà. En fait, ça fait partie de ces catégories de films que je suis très content d'avoir vu. Mais je suis moins content de regarder.
C'est voilà. Marrant parce qu'on dirait que tu dis que t'es content de l'avoir vu et qu'il y a une partie de toi qui a aimé, mais c'est comme si tu t'autorisais pas vraiment.
Non, je suis ni figue ni raisin, Clémence. Tu vois, c'est pour citer mon comparse à côté de moi.
Je suis emmerdé parce que moi, là, Steph, il dit beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir à différents aspects. Alors, si je rebondis sur la fin, sur le ressenti d'abord. C'est un peu. Je peux pas avoir un surenthousiasme et pourtant je vais être très clair. Je trouve que c'est un film extrêmement intéressant à plein de niveaux. C'est un film où je ne me suis pas ennuyé une seconde. C'est un film qui formellement en remonte à 90% des films qu'on voit sortir aujourd'hui. Donc ça suffirait théoriquement à ce que je dise chef-d'œuvre. Il faut absolument le voir. Je pense qu'il faut le voir, mais tout le mystère, toute l'atmosphère, toute l'intelligence de la mise en scène qui est mise en place dans le film pendant, c'est quand même un film qui dure 2h20, qui est pendant une énorme partie du récit, en termes de ressenti, si tu veux, moi j'étais excité par ce que je voyais, j'étais excité par le découpage, par les audaces de mise en scène, par les idées de mise en scène qu'il y avait, et je suivais ce récit que... Alors, je reviendrai dessus après sur la question du film noir, mais et plus le film avançait, en fait, plus ces audaces de mise en scène, ces audaces formelles, me laissaient espérer un inattendu narratif ou symbolique que je n'ai jamais eu à la fin. C'est-à-dire que, en fait, d'un point de vue purement narratif, si tu veux, hormis les circonvolutions dues aussi à son effet de style, malgré tout ça, à la fin, c'était un peu cousu de fil blanc. Et tout ce truc-là, je le voyais arriver, je me disais, il va forcément me le dynamiter d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être avec élégance, avec classe, je suis pas en train de dire, fallait que ça finisse en boucherie comme Parasite, tu vois. Mais ça part sur un chemin de traverse. Et en fait... ça ne part pas sur un chemin de traverse, ce qui me fait dire, moi, que finalement, très rapidement dans le récit, même si, comme vous tous, on y voit évidemment la référence au film noir, aux femmes fatales, à Vertigo, à tout ce qu'on veut. Mais ça, si tu veux, c'est des codes narratifs, finalement, qui servent un propos de mise en scène, sur lequel on reviendra probablement, mais qui ne sont pas réellement ce qu'est cette histoire, qui est un drame passionnel. Qui est juste un drame passionnel.
Mais c'est ça, la surprise.
Ouais, alors, tu peux considérer ça comme une surprise.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est une problématique. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est une surprise
à partir du moment où ton postulat de départ est de considérer que c'est revisiter le film noir avec Femme Fatale à la pluie.
C'est-à-dire qu'en fait...
Moi, je pouvais voir ces codes-là sans me dire ça va être forcément ce
type de récit. En gros, en essayant de pas méga spoiler, mais en fait, on est un peu obligé quand même, on est déjà en l'habitude.
Puis on s'en fout.
On est dans un récit où la question se pose, et en fait, elle se pose vis-à-vis de l'angle de comment le spectateur va l'aborder aussi. On a ce personnage de flic, ça fait 17 ans ou 18 ans qu'il est avec sa femme. il y a une relation qui est posée, en fait, qui est censée fonctionner, mais elle ne fonctionne pas vraiment, en fait, entre lui et sa femme, où, elle, où il habite, ils habitent dans deux villes différentes pour le travail, pour des raisons de travail et tout, où elle lui dit, quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse l'amour au moins chaque fois qu'on se voit, quoi qu'il arrive, il faut, comment dire, que même si on s'est engueulé, il faut qu'on fasse l'amour, en fait, il faut que ça soit un des trucs qui fonctionne entre nous, etc., etc. Et en gros, lui, il est ailleurs quand ça se passe, si tu veux. Et en gros, le ailleurs, c'est cette femme. Sauf que cette femme, elle a un agenda, c'est-à-dire que en fait, en gros, la question c'est de savoir si elle a tué son mari ou pas. Et en fait, la question c'est de savoir si elle va berner ou pas, si elle berne ou pas ce flic qui est en train de tomber amoureux d'elle, qui pour le coup est censé être extrêmement méthodique et extrêmement, comment dire, implacable en fait. Donc
ouais, mais si là... je peux te couper à mon tour parce que tu m'avais pas laissé finir, mais Il n'y a pas l'ambiguïté. En fait, en réalité... En fait,
l'ambiguïté, elle est dans la deuxième partie. C'est ce que alors, je dis encore une fois. En fait, si tu veux, c'est que...
Peut-être, mais... Ouais. Alors après, toi, tu l'as pris comme, un inattendu par rapport à la figure du film noir. Moi, ce que j'ai trouvé beau dans cette deuxième partie par rapport à cette idée que tu dis, qu'effectivement, elle tombe amoureuse, puisqu'on en est à spoiler, on peut le dire. Moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est le moment qui te le fait comprendre, tu sais, par rapport aux phrases que lui a dit le flic et qui sont répétées à plusieurs reprises, et c'est amené de façon assez
La phrase qui lui brise le cœur à elle,
ouais, assez élégante.
Toi, justement, cette phrase là elle déclenche ce qui lui brise le cœur, en fait. C'est-à-dire que elle, en fait, si tu veux, c'est là où elle comprend qu'elle tombe amoureuse. Mais l'intérêt, en fait, justement, du truc, c'est que ce changement pas de sujet, mais cette cassure, en fait, dans la narration.
On est sur un renversement par rapport à ce qu'on attend de ce code-là.
Non, mais c'est un renversement émotionnel. C'est-à-dire qu'elle, jusque-là, elle faisait semblant de tomber amoureuse de lui. Jusqu'à ce qu'en fait, elle tombe vraiment amoureuse de lui au moment où lui la dévoile telle qu'elle est exactement, en fait. Telle que lui finit par accepter. Mais c'est... En fait, si tu veux, il y a plein de principes. C'est-à-dire que quand t'écris une histoire d'amour et que tu es, on va dire, t'essayes de sortir des lornières, tu vois, des clichés, et que, en gros, c'est-à-dire les clichés habituels du genre, on va dire, si tu veux, pour rentrer dans un renversement psychologique, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est quand t'as une espèce de relation qui est de toute façon basée sur quelque chose qui ne devrait pas arriver, puisqu'en fait, il y a un interdit dans cette relation-là, pas seulement parce que le mec est marié ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle est, en fait, l'objet de son enquête. Donc, dans cet interdit-là, toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'il tombe amoureux de ce qu'elle est, ou est-ce qu'elle tombe amoureux de ce qu'elle renvoie. Et donc, en fait, dans n'importe quelle histoire d'amour, en vrai, dans la vie, c'est une question qui se pose. Et là où, moi, je trouve que ça fonctionne émotionnellement, c'est qu'en fait, il l'a percée à jour. Et c'est le moment où il l'a percée à jour qu'elle se dit « Personne ne m'a jamais percée à jour ». Et elle a plein de relations. Elle a une relation avec ce mec, ce mari qu'elle a tué. Elle a une relation avec le mec plus tard. Enfin, donc, elle a des tonnes de relations. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est le seul mec qui l'a percée telle qu'elle est. C'est-à-dire, et elle le laisse partir. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, j'achète ça. C'est-à-dire, en fait, psychologiquement, j'achète totalement le truc.
Moi, j'entends surtout, psychologiquement.
J'aurais été très déçu si c'était faux, en fait. Derrière, si tout ce qu'elle faisait, en fait, justement, dans son principe de manipulation, n'était pas justement pour le retrouver, même si elle, en fait, c'est tortueux.
Mais peut-être, alors moi, je ressens pas du tout je le comprends, hein. Et je suis d'accord dans la théorie à ce que tu viens de dire. Je trouve que le film ne le fait absolument pas ressentir émotionnellement. Peut-être aussi par le fait qu'on n'est pas dans un personnage de femme fatale vénale dans le sens de ce qui correspond au code. Où c'eût été intéressant fondamentalement et probablement plus marquant d'avoir une histoire d'amour qui pourrait se créer sur une figure féminine extrêmement vénale et assumée comme telle, qui fait qu'au-delà de cette vénalité, il y a une connexion qui se crée et qui te fait sortir de toute forme de jugement moral, là où finalement, ce personnage, déjà, on est quand même dans quelque chose de sensuellement extrêmement timide, donc il y a une part de vénéneux qui n'existe pas. Le sensuel, le charnel n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui me manque dans ce récit. Si on en est dans la logique du film noir et du film de femme fatale, et le personnage féminin, pareil, n'est pas un personnage si machiavélique que ça, dont on voit les fractures et la fragilité, donc qui crée de l'empathie assez rapidement. C'est pour ça que cette espèce d'inattendu final que je comprends, hein, qui est véridique, mais il a pas d'impact émotionnel. Et quand je parlais de ressenti, c'est ça qui me gêne, moi. C'est qu'au final, plus ça se déroule, Bah, moi, j'ai d'empathie ni pour l'un ni pour l'autre. Je regarde leur histoire évoluer, je vois leurs sentiments, je vois la répulsion, attraction, mais je suis complètement étranger à ce qui est en train de se produire.
Alors tu penses qu'il manque un côté sulfureux pour que ça...
Ah, déjà, pour moi, mais c'est pas le film qu'il veut faire. Il l'a fait dans Mademoiselle, si tu veux. Moi, j'adore Mademoiselle, contrairement à Stéphane. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Hellboy aussi, mais j'aime beaucoup Mademoiselle. Je suis pas un grand connaisseur de Park Chan-wook. C'est pas mon cinéaste asiatique préféré non plus. Mais Mademoiselle, je trouvais ça brillant. Et en fait, si tu veux, moi, l'intérêt que j'ai trouvé au film qui fait que je me suis pas ennuyé, et c'est ce que je me suis dit là en t'entendant discuter et tout ça, je me suis dit, en fait, il essaye de faire un film sur les sentiments humains, avec toute la complexité qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que, si vous l'avez remarqué, il y a plusieurs plans dans le film qui te met à la place du mystère, entre guillemets, de l'objet mystérieux ou du corps décédé d'une victime. Mmh. Donc, on prend la place de la victime, on prend la place de l'objet. Et donc, il renvoie au spectateur... quelque part le mystère insondable de sa perception de ce qui va se passer. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a ce plan subjectif d'un cadavre ou d'un objet, c'est exactement au moment où le type se met un produit dans les yeux pour voir mieux, mais en fait il voit plus trouble. Donc en fait, tous ces trucs là moi, je suis en train de me dire, oui, il utilise les codes du film Femme Fatale. Il a probablement peut-être eu l'intention de faire un film réellement romantique ou passionnel qui parle des sentiments. Et ça, si c'est ça son intention, je trouve pas que ça va très très loin, en fait. En revanche, c'est un film sur le cinéma. Comme Mademoiselle est un film sur le cinéma. C'est-à-dire que moi, qui aimais bien Hellboy, avec tout ce que tu as pu dire tout à l'heure, avec aussi les affaîtris que j'aime pas dans ses autres films, qui est un mec qui expérimente, qui teste des trucs, qui veut sortir des sentiers battus, qui des fois, à trop vouloir en sortir, se décadre totalement. Mais à partir de Mademoiselle, il y a quand même une approche, entre guillemets, Brian De Palma, je vais vraiment des guillemets, mais dans l'approche de se dire, ok, je vais revenir au basique. Le cinéma, c'est quoi, hein, la question du voyeur. Je vais pas revenir sur Powell, sur Hitchcock, sur tout ça, sur la question du point de vue, la question de l'intimité, la question du regard, la question de tout ça. Et en fait, c'est ça qui anime énormément et Mademoiselle et ce dernier film là, avec des choses que moi je trouve être hyper intéressantes en termes de mise en scène. Si en plus je les avais ressenties, mais vraiment profondément émotionnellement, je pense que j'aurais crié au chef d'œuvre, comme par exemple ces jeux sur la temporalité, où contrairement à ces films de voyeurs, là littéralement il te met en scène le voyeur qui se retrouve dans la scénographie de la personne qui regarde, alors qu'il est en train de la regarder, donc il est censé être à distance, mais en même temps il est à l'image à côté d'elle. Tout ça, c'est quand même un jeu sur ces codes-là, sur cette réflexion-là sur le cinéma, qui est hyper intéressante, mais que malheureusement, au bout d'un moment, est émotionnellement stérile. C'est-à-dire que censé dire des choses sur les sentiments humains, mais on le ressent pas. Donc moi, c'est un peu intellectuel, je trouve un peu cérébral.
Alors moi, certes, c'est un film cérébral, mais moi, par exemple, l'empathie sur le personnage féminin, il marche.
C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est vrai, c'est une question de ressenti.
En fait, elle marche vraiment sur elle, parce que, en fait, j'achète. En fait, j'aime l'idée, parce que justement, c'est un cliché, le personnage de Femme Fatale, c'est un cliché manipulateur. Mmh. Et en fait, si tu veux, bon, c'est un cliché intéressant, c'est un cliché avec lequel tu peux jouer, etc. etc. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, si tu veux, c'est que c'est la manipulatrice manipulée. Mais manipulée par elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'avait pas prévu un truc qui est qu'elle allait tomber amoureuse. Et en fait, tout bêtement, le simple fait, si tu veux, qu'il le pousse jusqu'au bout et qu'elle en bouffe, elle en chie, quoi, tu vois, dans la deuxième partie, en fait, de ça, si tu veux, et qu'elle continue dans ses schémas de merde avec des mecs de merde, avec des trucs et tout ça, etc. Je trouve ça assez bien vu parce que, en fait, fondamentalement, vraiment, c'est pas une question de genre, c'est pas une question d'homme ou de femme, hein, mais vraiment, en fait, si tu veux, c'est des fonctionnements psychologiquement tout à fait crédible, en fait, dans une dans un relationnel, tu vois, et je trouve finalement assez peu mis en place dans des structures scénaristiques. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que mine de rien, en fait, l'intérêt, si tu veux, d'écrire en fait ce fonctionnement psychologique, en fait, si tu veux, d'en tirer un film et avec une structure, etc., etc., tu vois, et de jouer sur cette structure là finalement, moi, je trouve ça relativement inédit. Alors, je dis bien relativement, il doit y avoir des films, en fait, où c'est inédit, tu vois, où il y a devoir avoir des mêmes, tu vois, je suis sûr, tu remontes, d'avoir des Bergman ou des trucs comme ça, où fondamentalement, tu vois, ces choses-là sont mises en avant, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est ce que c'est censé être, en fait, le film, un polar à la base, tu vois, c'est ce que c'est censé être, un film, un thriller, tu vois, un truc, genre, voilà. Mais Évidemment qu'il lâche prise au bout d'un moment sur le truc complètement, mais c'est-à-dire que ça s'ouvre sur un cadavre, ça s'ouvre sur une enquête.
Oui, il y a la mécanique. Sur... Voilà, est-ce que c'est censé l'être ? Je sais pas. Peut-être que simplement c'est une manière d'introduire ce qu'il avait envie de raconter.
Je pense qu'il pouvait décider de sortir du cadre d'une enquête et de raconter une histoire d'amour fondamentalement.
Mais après, son choix de le faire là-dessus lui permet de traiter toute cette question-là aussi qu'on a dit du voyeurisme, tout ce qui est propre au code du polar, hein, qui est la surveillance. D'ailleurs, le mec, c'est sa spécialité au départ. Ouais, c'est le spécialiste de la planque. Tu vois, donc il y a tout ce truc-là. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire, moi, je vais vraiment pouvoir dire de plus dans cette émission que.
Ah bon, bah, on arrête tout.
Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Juste après,
le ressenti.
Tu ne m'enlèveras pas l'idée que je trouve que toute cette mise en place de mise en scène extrêmement brillante et probablement même à la revoyure, si on revoit le film une deuxième, une troisième fois, tu verrais probablement un sens dans tous les effets de mise en scène et de découpage qu'il fait pour appuyer des éléments psychologiques. Ça reste jamais à un niveau émotionnel. Donc, et moi, c'est ce qui me manque là-dedans. C'est-à-dire que qu'on me revisite le film noir, le film de femme, ou le drame passionnel, peu importe comment on l'appelle, je sais pas, tu vois,
mais c'est pour ça que, en fait, si tu veux, c'est, on en revient.
Je le regarde à distance, le film, c'est chiant.
Moi, c'est exactement ce qu'on en revient à ce qu'on le disait avec ce que me posait comme question Clémence au début. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une distance, moi aussi, avec le film. Mais, en fait, cette distance, elle est clairement imposée sur la première partie. Si tu veux, où je me disais, bon, ok, il joue avec tout ça, il fait tout ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est la surprise de la deuxième partie. Je me suis dit, bon, bah là, en fait, j'adhère un tout petit peu plus. Mais après, je peux pas, encore une fois, je peux pas défendre ce film.
Non, mais c'est marrant parce que ces aspects,
en fait, si tu veux, encore une fois, surprenants. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si ça va tenir une deuxième
fois. Alors, ça, je sais pas. Mais moi, mon ressenti est complètement inverse. J'étais vraiment dedans dans la toute première partie. Je trouvais ça hyper intriguant, hyper. J'avais vraiment envie que ça m'amène quelque part d'inattendu et au final je l'ai pas eu cette surprise que t'as eu, que t'as trouvé ce chemin de traverse que tu trouves intéressant.
C'est surtout, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il le tenait jusqu'au bout. C'est-à-dire, en fait, la question vraiment, c'était de savoir est-ce qu'elle est vraiment tombée amoureuse ou est-ce que c'est encore un retournement de situation qui voudrait que, en fait, je joue avec le code de la femme fatale, si tu veux, et j'essaye de manipuler le spectateur, parce que, en fait, la manipulation du mec, c'est la manipulation du spectateur. Hein.
Exactement.
Est-ce que, en fait, ça fonctionne, tu vois ? Sauf que, en vrai, justement, t'as toute la deuxième partie, elle n'est plus fondamentalement dans la manipulation du spectateur, à partir du moment où il décide que pour de vrai, elle est tombée amoureuse. Ouais. Et moi, du coup, je trouve ça plutôt, comment dire, encore une fois, rafraîchissant.
Après, ça finit comme dire, du
louche. En fait, c'est un film qui est bourré de tics, qui a des problèmes et tout ça, etc. Ça, je vais pas te dire le contraire, quoi.
Non, parce
Mais, disons que juste tout simplement, en fait. Et c'est peut-être moi, encore une fois, qui ai sous-estimé Park Chan-wook. Hein. Je veux pas. En fait, moi, je sais que c'est un cinéaste qui a une importance. Je rentre rarement dans son cinéma. Je suis toujours un peu à l'extérieur. Donc là, ça, c'est un peu le cas. En fait, le vrai truc, c'est que c'est peut-être moi qui l'ai sous-estimé. Et là, je rentre un tout petit peu plus que d'habitude.
Mais je pense, assez honnête dès le départ. Je trouve. Bon, après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je trouve qu'il y a une maîtrise de la mise en scène qui est quand même absolument hallucinante. Il faut vraiment le souligner parce que je peux trouver qu'elle ne se traduit pas dans l'émotion ou elle ne me procure pas toujours l'émotion que j'aurais aimé trouver. D'un point de vue purement cérébral, tu regardes ces scènes-là, il y a une idée par scène. Il y a une idée de cadre par scène, il y a une idée de mise en scène par scène. Il y a un vrai travail, moi, je trouve, sur justement la temporalité. J'ai une histoire d'amour, je m'éloigne, je me rapproche, il y a tout un travail là-dessus sur la spatialité, sur tout ça qui est incroyable. C'est un film que moi j'ai envie de revoir juste pour ça. J'ai envie de le revoir pour essayer de me dire, ok, je l'ai vu, j'ai rien ressenti émotionnellement, peut-être qu'à la revoyure je verrai un peu plus ce qu'il a voulu faire, mais en même temps, je me dis, voilà, ça ne sera jamais le choc que j'ai reçu avec Mademoiselle, qui pour moi reste quand même le Park Chan-wook que je préfère, de loin. Parce que je trouvais que tout y était. La réflexion sur le cinéma, la réflexion sur le rapport des femmes entre elles, des hommes avec les femmes, la sensualité, l'audace par moment, les bascules de ton marquées, mais qui fonctionnaient à mort. Et moi, j'avais été dans un tourbillon. Enfin, tu vois, c'était vraiment le genre de film qui me parle. Et celui-là, je suis resté un peu derrière, tout en reconnaissant toutes ses qualités. Donc moi, je trouve qu'il a quand même énormément de qualités.
Il manque Mario, quoi.
Eh ben, marée haute, marée basse.
Oui, oui, marée haute, bon. moi, marée très haute même. Non, et puis, ouais, je le répète, mais putain, mettons les choses en perspective quand même. On se fait emmerder à longueur de journée par des tétards qui nous parlent de films de merde, qui viennent et qui, tiens, mais qui sont comme des leitmotivs à la conscience. Moi, j'en peux plus. Donc, une fois de temps en temps, hein, à l'heure des plateformes et tout ça, d'avoir des mecs qui sortent et qui ont un regard, qui ont une capacité, comme le dit Stéphane, un peu vite au départ, il sait tenir une caméra, ouais, enfin, il sait la tenir carrément bien,
oui,
quoi.
Bah, ça va, excuse-moi là. Non, oh,
il sait la tenir grave bien et ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir, faut quand même le dire.
Donc, Yannick recommande, Stéphane recommande, bah oui, puisqu'il a été
recommande Mitch. Mitch, recommande à moitié, recommande pour la deuxième.
Oh non, moi, c'est pas vrai.
J'allais dire pas pour la deuxième partie, parce qu'en fait, c'est vrai que la deuxième partie pourrait pas fonctionner sans la première. Donc, en fait, il y a aussi ce
mec qui s'arrête jamais.
Mais alors, attends, elle voulait que je dise oui ou recommande non. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué. La vie est un peu plus compliquée que ça,
oui,
Clémence.
D'accord.
Donc, en fait,
oui,
si tu veux,
mais
c'est...
tu non, dis quand même,
attends, il y a recommander, c'est pas dire apprécier, parce que même un film avec ses défauts, tu peux le recommander. Il mérite d'être vu.
Allez le voir. Pour faire plaisir à Yannick.
Si vous voulez vous faire votre propre avis, Decision to Live est en salle depuis ce mercredi 29 juin.
Ouais, puis j'étais tout seul avec un vieux dans la salle ce matin. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de monde quand même. Hein.
Il a aimé ?
Je sais pas, il ronflait à la moitié.
Ah, il a pas aimé. Hein.
Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour la saison. Yannick, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour
merci
ce tout bon. Dernier épisode.
Bah, merci. Et c'était puis... cool.
Bah oui, c'était cool.
C'est le dernier, c'est toujours un peu triste, mais
c'est
bon.
C'est cool et c'était intéressant. Revient, oui, revenir. Mais on revient à la rentrée, évidemment. Merci à Alain aussi d'avoir tenu la barre.
Merci à vous tous.
Et puis merci à vous tous, oui, qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail, vous pouvez nous aider. Vous trouvez peut-être qu'on en parle un peu souvent, mais c'est parce que c'est important pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à vivre de nos émissions. On a besoin de vous. Donc n'attendez plus pour nous soutenir. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir. Et puis pour nous soutenir, il y a d'autres moyens de le faire, vous pouvez nous aider à nous faire connaître. Pour ça, parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Et puis n'hésitez pas non plus à réécouter tous les épisodes que vous avez en retard cet été.
Moi, allez. Si j'étais là, je mettrais Independenza après ce qu'elle dit. Hein. Franchement, tu mets le morceau de IAM quoi, pour qu'on soit Independenza.
Allez, on finira.
Mais ouais.
Je pense que la taxi va nous faire ça. Ouais. Allez, je vous laisse. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de Sale Temps pour Infini. Salut!
Mon histoire de France à moi commence par un génocide, ses pensées maussades. Romance, une revanche impossible. Tous fils de la Kibla, qui blague au mic en habit bleu. Nous on maquille ces putains de feuilles immaculées en nuit bleue. Ils brandissent la Bible et mettent Jésus à tort de l'intox.
Avec la rabla
comme du flitox. Moi je revendique ma différence dans ce pays merdique.
Doucement,
hein, doucement, t'inquiète, on fait des sous sous le manteau car tous mentent.
Comment leur faire croire?
C'est qu'il n'y a pas que des cancres là, moi je manque là.
Mon encre là,
bave des cancres là. Mon âme striée par les vicissitudes. Classe un cœur froid d'habitude, noir de bitume.
La vie, cette vie, ça l'est.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.